Vous écoutez
RMC.
Soyez les bienvenus dans la matinale week-end RMC. Il est 7h.
RMC, la matinale week-end.
L'heure de retrouver Victor Pourchet pour le journal. Bonjour Victor.
Bonjour Anaïs et bonjour à tous. À la une attaque massive, une première historique. L'Iran a lancé plus de 200 drones et missiles sur Israël hier soir. Plus de 99% des tirs ont été interceptés avec l'aide des États-Unis, dites ça à l'instant. Dans l'actualité également, près de la moitié ne s'y intéresse pas. Ils sont encore plus à s'inquiéter de leur organisation. Les Français, pas vraiment jojo avant les JO. On vous détaille ce sondage dans un instant et on vous attend à 7h10 pour en parler. Et puis le lancement du Pass Colo, c'est demain, entre 200 et 350 euros pour vous aider à faire partir vos enfants en vacances.
La nuit était tombée en Israël hier soir quand le ciel s'est illuminé.
Et les sirènes ont retenti à Jérusalem, mais aussi dans le nord du pays pour annoncer une attaque massive de drones et de missiles venus d'Iran. Plus de 200 selon le dernier décompte. 99% ont été interceptés, dit Tzahal, avec l'aide des États-Unis. Bonjour Benoît Ballet.
Bonjour.
Correspondant de BFM TV et de RMC à Washington. Cette attaque que Tel Aviv dit avoir déjouée ce matin, c'est une première. Mais Washington avait prévenu et continue d'être en lien très étroit avec les autorités israéliennes.
Oui, Joe Biden s'est entretenu au téléphone avec Benjamin Netanyahou. Hier soir, le président américain a assuré le premier ministre israélien du soutien inébranlable des États-Unis. D'ailleurs, d'après Joe Biden, les forces américaines dans la région ont contribué à abattre presque tous les drones et missiles tiré par l'Iran. Pour autant, Joe Biden a tenu à ne pas franchir une ligne rouge, celle de la contribution à une réponse militaire israélienne. Les États-Unis ne soutiendront pas et ne participeront pas à une opération militaire contre l'Iran. Voilà aussi ce que Joe Biden a dit à Benjamin Netanyahou, selon la Maison-Blanche, car la crainte des États-Unis est bien de voir toute la région s'embraser dans la guerre. Le président démocrate a donc annoncé qu'il convoquerait ce dimanche ses homologues du G7 pour coordonner une réponse diplomatique unie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira également en urgence aujourd'hui à la demande d'Israël.
Merci Benoît Ballet en direct de Washington pour RMC et BFM TV. Alors, Benjamin Netanyahou au téléphone avec Joe Biden, vous l'avez entendu, mais aussi s'adressant à son peuple hier soir, juste après l'annonce de la fermeture de l'espace aérien israélien, des écoles également. Le Premier ministre israélien a assuré que son pays était prêt à faire face à cette attaque.
Nos systèmes de défense sont déployés. Nous sommes préparés à n'importe quel scénario, à la fois défensivement et offensivement. L'État d'Israël est fort, ses armées sont fortes, son peuple est fort. Quiconque nous attaque sera frappé en retour. Nous nous défendrons contre toute menace et nous le ferons avec calme et détermination. Je sais que vous, citoyens d'Israël, garderez votre calme. Nous sommes ensemble et, avec l'aide de Dieu, nous triompherons de tous nos ennemis ensemble.
Benjamin Netanyahou, hier soir, quelques heures avant, le Premier ministre israélien s'en était pris au Hamas. Ses demandes sont infondées, réagissait-il après la réponse du groupe armé palestinien à un projet de trêve à Gaza. Et à l'instant, les renseignements israéliens, le Mossad, viennent de confirmer que le Hamas avait rejeté ce projet de trêve.
À noter que Thierry Coville, chercheur à l'IRIST, spécialiste de l'Iran, sera avec nous pour en parler, pour décrypter tout cela à 7h40 sur RMC. Il est 7h03, la magie des Jeux Olympiques opère de moins en moins sur les Français.
Mais plus de la moitié sont inquiets sur l'organisation. 53% seulement s'y intéressent, c'est 8 points de moins qu'il y a 6 mois. Grosse dégringolade aussi pour la confiance en la sécurité, moins 13 points à 55% désormais. Ce sont les principaux enseignements d'un sondage Ipsos pour la Tribune dimanche, juste avant une nouvelle salve de 250 000 billets mis en vente. Mercredi, presque tous les sports sont concernés, Léonie Guilbeault.
La billetterie fonctionnera sur le principe du premier arrivé, premier servi, ouverture mercredi dès 10h sur le site officiel de Paris 2024. Toutes les gammes de prix, dont tous les sports, sur tous les sites olympiques, c'est la promesse du comité. La moitié des billets seront vendus entre 24 et 100 euros. Le prix de vente de 12 500 billets sera lui supérieur à 400 euros. Dans certains sports où toutes les places étaient déjà écoulées, il y aura de nouveaux billets mis en vente, assure Tony Estanguet, mais il faudra être rapide, prévient-il. Les 250 000 nouveaux billets seront sûrement pris d'assaut comme les 8 millions déjà vendus. Une dernière session s'ouvrira dans quelques semaines et tous les détenteurs de billets pourront aussi revendre des places sur la plateforme officielle dans le courant du mois de mai.
Léonie Guilbeault pour RMC. Et vous, la vente de billets, elle vous interroge? La sécurité, elle vous inquiète? Quels espoirs pour les athlètes français? Toutes vos questions sont sont les bienvenus par mail à cette adresse, vosquestions@rmc.fr, ou alors vous appelez le 3216. Elles seront posées à Emmanuel Macron.
Oui, parce que le président sera l'invité exceptionnel de RMC et BFM TV lundi de 8h20 à 9h. À 100 jours du début de la compétition, il répondra aux questions d'Apolline de Malherbe et de nos consultants David Douillet, Marion Bartoli et Rémi Boulet.
Et où seront vos enfants pendant les Jeux Olympiques? Peut-être en colonie de vacances grâce au pass écolo. Le lancement du dispositif, c'est pour demain. On connaîtra donc la liste des colonies concernées par cette aide financière. Solène Gardré, qui exactement pourra en profiter et comment?
Seuls les enfants qui ont 11 ans cette année pourront bénéficier de cette aide. Entre 200 et 350 euros par foyer seront accordés en fonction des ressources des parents. Sont donc concernés les foyers cumulant jusqu'à 4000 euros net de revenus par mois et qui ont un quotient familial, c'est-à-dire le revenu rapporté au nombre de personnes dans le foyer, inférieur ou égal à 1500 euros. Selon le gouvernement, 80% des enfants de 11 ans seront concernés par le pass colo, soit près de 600 000 enfants. Si le pass n'est pas utilisé l'année des 11 ans, il pourra être reporté une fois l'année suivante. Pour réserver sa colonie, ça sera donc possible dès demain sur un site du gouvernement. L'aide sera directement déduite lors du paiement.
Les explications de Solène Gardret pour RMC. Ils étaient 38 000 dans la rue hier selon les forces de l'ordre. Et combien aujourd'hui les motards manifestent encore contre le contrôle technique obligatoire des deux roues qui entre en vigueur lundi après le rassemblement à Paris qui a réuni entre 7 000 et 10 000 personnes ce samedi, après ceux de Bordeaux, Toulouse ou encore Rennes également. Manifestation prévue à Marseille aujourd'hui.
Le sport et le rugby, sale journée pour les clubs français en Champions Cup hier.
Port d'Aubègle éliminé par les Harlequins. La Rochelle sèchement battue par les Irlandais du Leinster. Il faudra compter sur Toulouse contre Exeter pour espérer voir des Français en demi-finale de la compétition. Coup d'envoi du quart de finale à 16h.
Et c'était pas beaucoup mieux pour Novak Djokovic au Master 1000 de Monte Carlo.
Le tennisman serbe ne verra pas la finale sortie hier par le Norvégien Casper Ruud qui n'avait pas encore battu un top 3 dans sa carrière. Eric Salio, doit-on s'inquiéter pour le numéro 1 mondial à un peu plus d'un mois de Roland-Garros?
Oui, Novak Djokovic traverse décidément une période tourmentée. Cette grossière double faute sur la balle de match face à Casper Ruud va le poursuivre quelque temps. Les interrogations se bousculent. Pourquoi cette fébrilité? Pourquoi ces tremblements à une main, un changement de côté? Pourquoi ces baisses physiques? A-t-il encore faim? Éliminé en demi-finale de l'Open d'Australie, battu par un modeste Italien, Indian Wells, le numéro 1 mondial n'a toujours pas soulevé un trophée cette année. Avec sa nouvelle équipe, il va devoir identifier ses problèmes au plus vite. Sinon, il va se présenter à Roland-Garros plus vulnérable que jamais. Ses fans doivent penser qu'il a encore le temps. Oui, peut-être. Prochaine étape, Madrid, un Masters 1000 qu'il n'a gagné que 3 fois.
Eric Salio et en attendant, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, c'est l'affiche de la finale du Masters 1000 de Monte Carlo. C'est à 13h et ce sera en direct sur RMC. Je vous signale également qu'en football et en Ligue 1, Rennes a chuté à domicile 2 buts à 1 contre Toulouse. Les espoirs d'Europe des Rennais s'éloignent. Seulement 3 matchs au programme aujourd'hui. Le Havre-Nantes à 13h, Clermont-Montpellier à 17h, Lyon-Brest à 20h45. Vous savez, seulement 3 matchs parce qu'il faut reposer les 3 clubs français européens, Marseille, Lille et Paris, et ils auront bien besoin de repos parce qu'il faudra remonter leur score. Ils ont tous les 3 perdu le match aller. Ouais.
Merci beaucoup Victor. Je lis vos messages sur Direct Studio et certains s'inquiètent pour Mathieu Rouault. Pas d'inquiétude, il est en vacances. il sera là le week-end prochain. Il va très très bien, il va mieux que jamais même puisqu'il dort. Il est au lit. Donc ça va, tout va bien. Soyez tranquille, il sera là aux manettes de la matinale week-end le week-end prochain. Merci Victor, vous parliez des Jeux Olympiques parce qu'on est quasiment à 100 jours de l'événement en France. Il y a pas mal d'inquiétudes, en effet, visiblement, 53% des Français inquiets sur l'organisation, notamment. Venez poser vos questions à Emmanuel Macron. Le président est l'invité d'Apolline demain matin à partir de 8h20 sur RMC et BFM TV.
Et on a aussi 2 places à vous faire gagner ce matin pour la cérémonie d'ouverture pour le judo, le tennis de table, la natation et j'en passe évidemment. Envoyez Paris 2024 au 732-16, Paris 2024 au 732-16. Le gagnant sera avec nous à 9h08.
À suivre dans la matinale week-end.
Restez avec nous, à suivre c'est déjà demain avec Anthony Morel. Anthony, de quoi on parle ce matin?
On va parler des parcs aquatiques du futur. Alors vous aurez peut-être plus des vrais dauphins, vous aurez des robots à la place.
Je suis pas sûre que ça me fasse rêver. Mmh. Mais bon, on va voir ce qu'il en est. À tout de suite, on vient dans un instant. Pour à vous de nous dire, ce sera avec Kevin Gasser. À tout de suite.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Anaïs Castagnard.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur RMC. On est ensemble jusqu'à 9h30.
RMC,
À vous de nous dire.
À vous de nous dire avec Kevin Gasser. Bonjour Kevin.
Bonjour Marie, bonjour Anaïs.
Bonjour Kevin, nous vous consultons et nous décryptons ensemble une question d'actualité. Sur notre compte Twitter, nous vous interrogeons ce matin à propos des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est la semaine prochaine, on sera à J-100 la semaine prochaine. Attendez-vous les Jeux avec impatience?
Oui, c'est la question que nous vous posons parce que mercredi, c'est le jour symbolique des J-100 avant le début des Jeux. Mardi, la flamme olympique sera allumée au sanctuaire d'Olympie. La machine commence à se lancer. L'engouement, par contre, est difficilement palpable. Preuve en est ce sondage Ipsos publié ce matin dans La Tribune dimanche. Seulement un Français sur deux se dit intéressé par les JO. C'est même moins qu'en octobre dernier. Ils étaient 61%.
Il faut dire, Kevin, que depuis l'attribution des Jeux, on a parlé de tout sauf de sport.
Oui, bon, c'est pas nouveau. Chaque ville organisatrice des Jeux a eu droit à son lot de critiques. Mais c'est vrai que les interrogations pour Paris sont nombreuses. Sur la sécurité des personnes, d'abord, plus de 15 millions de visiteurs sont attendus cet été à Paris pendant les Jeux. Entre la menace terroriste qui existe autour de l'événement et le fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions de foot à Paris en 2022, souvenez-vous, c'est pas l'optimisme qui règne. D'ailleurs, selon le même sondage Ipsos mentionné tout à l'heure, seuls 47% des Français sont confiants quant à la capacité d'organisation de la France. Autre cible des critiques, les transports publics. La promesse du comité d'organisation, c'était la gratuité pour les visiteurs détenteurs de billets. Et ce sera finalement 4 euros le ticket simple aller, soit le double du prix d'un trajet actuel. Le tout pour des transports publics qui ne seront pas prêts, reconnaissait même la maire de Paris, Anne Hidalgo, en novembre dernier.
Mais il y a quand même de quoi se réjouir pour ces Jeux, rassurez-nous Kevin, s'il vous plaît.
Bien sûr, concernant les hébergements, déjà les prix pour passer une nuit à Paris pendant l'événement étaient mirobolants en fin d'année encore. Mais c'est désormais 100 euros moins cher comparé à octobre dernier pour une chambre d'hôtel selon le site Kayak. Le prix moyen reste de 340 euros tout de même. Sur Airbnb, par contre, j'ai regardé hier soir, il reste encore des dizaines de chambres pour deux personnes à moins de 100 euros à Paris intramuros. Pour la nuit précédant la cérémonie d'ouverture du 26 au 27 juillet, c'est abordable.
Et le sport dans tout ça? Bernard, tout à l'heure, nous disait au 32-16, on n'en parle pas assez.
C'est vrai qu'on en parle très peu. Pourtant, on a toutes les raisons d'être optimiste avec de grands champions, le phénomène Léon Marchand en natation, les frères Lebrun pour bousculer les Chinois au tennis de table, Teddy Riner, Clarisse Agbenienou ou encore Roman Dico sur les tatamis. Beaucoup de chance de médaille finalement.
Alors à vous de nous dire, attendez-vous ces Jeux avec impatience?
Vous avez répondu non à plus de 82% à notre consultation sur Twitter.
Et alors ça fait réagir hein, sur l'appli RMC?
C'est ça, ça réagit très bien. Il y a Pierre qui nous dit qu'il n'a rien contre les JO, mais c'est plus ce qui se passe autour, comme on enlève une voie au périphérique, qu'il y a des bouchons 24 heures sur 24, des billets RATP à 4 euros, vous le disiez Kevin. Donc oui, il est plutôt emballé par les Jeux, par le sport, mais pas pour tout ce qui se passe autour. Contrairement à Julien qui lui trouve que les JO vont être splendides et qui vont faire résonner la France aux yeux du monde.
Bah, vous nous dites hein, ce qu'il en est pour vous, ce que vous pensez. Au 32-16, évidemment, on vous attend. Christian, fidèle auditeur d'RMC de Toulon, qui nous appelle. Oh, ça me fait super plaisir. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, Christian. Comment ça va?
Bonjour, Anaïs. Bonjour, Marie. Oui, bon, ça va bien. Merci. Ça fait plaisir d'être accueilli comme ça.
Je suis vraiment fidèle auditeur d'il y a 20 ans. Et puis, je vous ai eu, mais quantité de fois, même quand j'étais en semaine. Je suis vraiment ravie. Vous les attendez avec impatience, vous, ces Jeux, Christian?
Non, pas du tout.
C'est vrai?
Je fais partie des... Je les trouve... D'abord, on parle du risque plus qu'autre chose, plus que d'autres choses. Tout à l'heure, avec votre aimable journaliste, je disais qu'effectivement, il n'y a pas énormément de noms. Je regardais BFM en même temps, je regardais il y a Teddy Riner, il y a Léon Marchand, effectivement, comme nom qui résonne. Je ne sais plus qui le décathlonien. Je disais il n'est pas certain qu'il soit là. C'est un peu dommage. Et après ça, je veux dire quels sont. Moi j'ai une question à vous proposer. C'est quels sont au moins les 10 noms fameux, célèbres, connus sur ceux des Français qui risquent de rapporter les médailles. J'en ai pas énormément.
Estelle Mosley en boxe.
Ouais, que vous connaissez quand même.
Comment?
Oui.
Roman Dico. Non, mais je vous trouve un peu dur, Christian, non?
Moi, je suis pas dur, non. Je regarde ça d'une oreille un peu distraite. Je regarde un peu ce qui se passe. Mais ce qui m'ennuie, moi, c'est surtout ce sur quoi on insiste plus, c'est la sécurité, le danger, etc. Effectivement, je trouve que la cérémonie d'ouverture, elle est. Moi, j'écoute beaucoup Alain Bauer, qui est passé en nombre de fois chez Apolline de Malherbe, pour dire et pour répéter que c'était une absurdité. C'est pour moi une absurdité. Bon, après, c'est à Monsieur Macron, pour qui j'ai voté malgré tout, qui a d'assumer. Il assume. Moi, je trouve qu'il y a un côté orgueil mal placé que de vouloir maintenir absolument cette cérémonie sur la scène. Le jour où il y aura effectivement un dérapage, où il y aura une personne tuée par ci, par ça, ou je ne sais quoi, un mouvement de foule ou quoi que ce soit, ce sera la répercussion sera catastrophique dans le monde entier.
C'est votre question pour Emmanuel Macron, qui est l'invité d'Apolline demain matin. C'est votre question pour le président ?
Oui, si vous voulez, j'en ai pas tellement, parce que de toute façon, il n'y a pas tellement de questions. Mais quelles seront les conséquences d'un dérapage, d'une erreur, d'une catastrophe lors de cette cérémonie d'ouverture ? Les conséquences sur l'image de Paris, je pense qu'elles sont, elles seront peut-être. Je le souhaite pas évidemment, mais je pense qu'il y a quand même à se poser la question.
Ouais. Moi, vous interrogez. Christian, restez.
De pas être dans
l'enthousiasme, c'est ça. Ouais. Merci Christian. Reste avec nous parce qu'on a Mathieu aussi qui nous appelle pour réagir. Mathieu qui nous appelle du Morbihan. Bonjour Mathieu.
Bonjour Naïs.
37 ans, chauffeur routier qu'on connaît bien là aussi. Est-ce que vous êtes un petit peu plus enthousiaste que Christian?
Ah oui, moi j'attends ça. Moi j'attends ça avec impatience, moi.
Ouais.
Parce que pour moi les JO, c'est vrai que c'est même si hier comme j'ai dit, il y a les grands favoris, il y a les grands noms connus. On va voir tous ces petits sportifs qui se déchirent chez eux là, qui se préparent pour ces Jeux Olympiques, ces petits pays. Moi je trouve qu'on est trop pessimiste. Moi je trouve que c'est ça devrait être une fête.
Il devrait y avoir un élan dans le pays. Oui, ouais, on devrait avoir envie de ces jeux. On devrait le ressentir.
Ouais, parce que on parle beaucoup, on parle en négatif, on parle non, mais la cérémonie d'ouverture elle va louper. Voilà, ça va être un fiasco. C'est sûr que à force de vouloir du mauvais, on aura du mauvais parce que on est. Je pense que la France est un pays d'éternel insatisfait quand on voit que par exemple. Les clubs de foot français ne veulent pas libérer leurs jeunes pour l'équipe de France parce que on se donne pas toutes nos chances aux Français pour faire du sport, pour gagner. On n'a pas cette culture de la gagne. Moi, quand j'ai regardé les JO, je vais voir la nageuse qui est obligée d'aller travailler, qui va se taper 15 heures de natation par semaine et qui est obligée d'avoir un travail à côté parce que la natation en France, c'est pas un sport qui rapporte. Moi, je trouve que
vous avez raison, il y a des super histoires. On va vivre ça, évidemment, sur RMC. Moi, j'ai hâte de parler de tout ça, de découvrir ces portraits d'athlètes au mois de juillet. À partir du mois de juillet, on va énormément en parler, évidemment, sur RMC. Vous avez des places Vous avez envie d'assister à une épreuve, Mathieu?
Y aller, oui, j'aurais voulu y aller, mais quand j'ai vu qu'il fallait pour avoir des places, fallait choisir trois épreuves et ça tout de suite ça montait dans des prix on va dire exorbitants parce qu'il fallait être dans les premiers. Tout de suite non, c'était pas possible pour moi de m'acheter des billets. Donc après je le vivrais très bien de la maison, même si j'aurais voulu y participer. Mais ouais, c'est vrai que quand on voit les tarifs, je pensais pas que ça aurait été. Je sais pas comment ça se passait dans les autres pays, si c'était, on va dire.
C'est vrai que c'est compliqué. Et là où je vous rejoins, c'est que moi, par exemple, j'ai aussi une famille. Et tout de suite, quand on a envie d'y aller, de vivre ça en famille, je trouve que l'addition, elle est très, très salée. Vous me donnez l'occasion de rappeler que 250 000 billets seront mis en vente la semaine prochaine. La moitié à moins de 200 euros. Mais c'est vrai que quand on additionne, tout le monde ne peut pas se le permettre. Vous avez raison. Tiens, d'ailleurs, j'en profite. Vous savez qu'on a 100 places à faire gagner dans les shows d'RMC. Tentez votre chance en envoyant Paris 2024 au 7-32-16, on ne sait jamais. J'aurai un gagnant tout à l'heure à 8h, à 9h08. Merci à tous les deux d'avoir appelé, d'avoir réagi ce matin. Et évidemment, le débat se poursuit tout au long de la matinée.
Et vous restez avec nous dans un instant. On retrouve Anthony Morel pour C'est déjà demain.
RMC, les grandes gueules.
Bonjour, c'est Alain Marchal. Demain, nous serons à 100 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024.
On va mettre le maximum d'énergie et tout donner pour que ce soit des très grands Jeux Olympiques et des très grands Jeux Paralympiques.
Vive la République et vive la France.
Et le président de la République, Emmanuel Macron, sera l'invité exceptionnel d'RMC de BFM TV de 8h20 à 9h pour répondre aux questions d'Apolline de Malherbe, de David Douillet, de Marion Bartoli, de Rémi Boulet. Et ce sera commenté par les grandes gueules dès 9h. Et on vous attend au 32-16.
RMC Les Grandes Gueules, tous les jours, 9h30. On en parle.
La complémentaire santé solidaire proposée par l'assurance maladie vous aide à payer vos dépenses de santé. On en parle tout à l'heure avec Caroline qui bénéficie de ce droit.
RMC, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Soyez les bienvenus, c'est la matinale week-end sur RMC. Il est 7h22.
RMC.
C'est déjà demain.
L'actualité des nouvelles technologies, c'est tous les jours sur RMC avec Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour Marie, bonjour Anaïs.
Aujourd'hui, vous nous parlez des robots pour remplacer les animaux en captivité dans les parcs aquatiques. Aujourd'hui, vous nous parlez de dauphins robotiques tellement réalistes qu'il est presque impossible de faire la différence avec des vrais, en fait.
Ah, c'est hyper spectaculaire et c'est peut-être un début de résolution au débat éthique autour de la captivité des animaux marins. D'ailleurs, il y a une loi contre la maltraitance des animaux qui va interdire les spectacles en delphinarium à partir de 2026. Et peut-être que l'une des pistes, l'une des solutions, ce serait de remplacer les mammifères marins réels par des robots plus vrais que nature. C'est une société qui s'appelle Edge Innovation qui fait ça. Ils ont conçu déjà les animatroniques de films comme Sauver Willy. Et donc, ils ont créé un robot dauphin absolument bluffant de réalisme. Il pèse un peu plus de 250 kilos, donc c'est le poids d'un vrai dauphin. Sa structure réplique la structure squelettique réelle d'un dauphin adolescent. Ensuite, on a répliqué ses muscles en utilisant des cervomoteurs qui lui permettent de reproduire la nage et les acrobaties d'un dauphin, mais avec une fluidité absolument dingue. Allez voir les images sur internet, vraiment. Vous
tapez on a l'impression que c'est un vrai.
On a l'impression que c'est un vrai, d'autant plus que la peau est en silicone, les yeux et les dents sont répliqués. En fait, l'illusion est presque parfaite. Alors, il est piloté à distance par un opérateur, un peu comme un drone, qui peut le faire interagir avec le public. C'est complètement fou. Ils vont commencer à être déployés dans certains parcs aquatiques, et donc ça permet d'imaginer de nouveaux types d'attractions pour les spectateurs. C'est moins rigolo, c'est vrai, qu'avec des vrais animaux. Mais bon, au moins, il ne souffre pas, quoi.
Il faut dire que les avancées technologiques sont telles qu'on arrive à un degré de réalisme incroyable, c'est vrai. Alors, les dauphins, c'est une chose, mais on peut imiter n'importe quel animal.
Oui, c'est ça. Ça va du robot chien de berger dont les mouvements et le comportement répliquent à la perfection ceux d'un vrai animal. Et d'ailleurs,
donc je pourrais avoir un chien robot à la maison.
Tu pourrais avoir un chien robot à la maison. Alors c'est moins marrant quand même pour un animal de compagnie. Là, ce qui est intéressant, c'est que même les moutons, ils y croient, si tu veux. Donc ça permet de gagner du temps et voilà, il y a pas besoin d'avoir un vrai chien de berger.
Ah.
T'as aussi des robots aigle ou faucon qui servent d'épouvantail. Par exemple, sur les pistes d'aéroport, ils vont faire fuir tous les oiseaux. Les oiseaux vont croire que ce sont des vrais robots. Les robirds s'appellent comme ça. C'est absolument incroyable. Ils produisent les mouvements des ailes d'un faucon pèlerin ou d'un aigle. Ils volent très vite d'ailleurs, ça ressemble vraiment à des oiseaux de proie, alors qu'en fait c'est juste une boîte de conserve volante. Mais bon, les oiseaux du coin eux s'y laissent tromper.
Autre idée technologique pour préserver les animaux, certains cirques remplacent leurs tigres, leurs éléphants par des hologrammes.
Oui, absolument. Alors c'est testé notamment en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, où on a interdit en fait l'utilisation d'animaux sauvages dans les cirques, après des cas de scandales de maltraitance animalière. Et donc c'est un cirque allemand qui a eu l'idée de remplacer les tigres, les lions et les éléphants par donc des images virtuelles en trois dimensions qui se matérialisent devant les spectateurs et dont on a l'impression qu'on pourrait presque les toucher. Un éléphant qui barille un carrousel de chevaux. Et en fait, ce sont 11 projecteurs laser qui créent cette illusion à 360 degrés. Alors, c'est une technologie qui est déjà utilisée, vous savez, pour ressusciter les
artistes
sur scène.
Bien
ouais,
sûr.
Michael Jackson, Tupac, Claude François. Alors, le résultat est bluffant. On se rend compte quand même.
Les politiques aussi s'en sont déjà servis.
Oui, absolument. Jean-Luc Mélenchon avec ses hologrammes, je suis partout. Incroyable. Alors, on voit bien que ce n'est pas des vrais animaux, très clairement, mais l'illusion est très bien faite. Et ça ajoute un côté presque poétique, un peu onirique au spectacle aussi.
Merci Anthony. C'est déjà demain à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Il est 7h25. Vous écoutez RMC, vous restez avec nous. C'est l'heure de se marrer avec Vincent Serroussi.
RMC, la matinale week-end.
Serroussi n'a pas tout compris.
Vincent Serroussi qui fait hurler de rire toute l'équipe d'Estelle Midi cette semaine. Il a été inspiré par le passe-colo que le gouvernement est en train de lancer.
Merci. Merci. Enfin, merci maman, merci papa, ils ont juste trouvé un moyen de se débarrasser de toi, mon pauvre gamin. Le passe colo, on a eu le passe sanitaire, après le passe culture, le passe partout, le passe muraille, le passe colo, c'est Fort Boyard, le truc clairement. Non, le passe colo, Macron avait aussi parlé de cours d'empathie. C'est marrant, l'empathie des enfants, il prend vraiment des mesures qui ne le concernent pas. C'est assez étonnant. Après, les colonies de vacances, ça existe aussi pour les vieux. Ça s'appelle le Sénat.
Voilà. Bon, tu comprends que le gouvernement veuille relancer quand même les colos?
Bah, je pense que c'est surtout le seul moyen qu'ils ont trouvé pour que Gabriel Attal prenne des vacances. Après, c'est sûr que les colos, c'est génial. C'est génial. Les enfants reviennent de colos avec des souvenirs, les moniteurs avec des MST. C'est vraiment. C'est inoubliable. C'est inoubliable. Et en même temps, c'est vrai que c'est une décision étonnante, quoi. Il y a encore quelques mois, le gouvernement parlait de rétablir le service militaire. Maintenant, ils veulent envoyer les enfants en colo. Ça va être sympa, hein, si on part combattre en Ukraine, on va faire un jeu de piste avec les Russes, hein, une balle aux prisonniers.
Bon, pas trop, moi. Le gouvernement dit surtout que les colonies de vacances, c'est une arme anti-RN.
Oui, alors ça, j'ai pas compris, hein, parce que le Rassemblement National est plutôt nostalgique des colonies, donc c'est quand même, c'est quand même assez paradoxal.
Ah, j'adore.
Non, mais du coup, ça va être quoi, des colos macronistes? Il suffit que tu dises que t'es contre le 49-3, et là.
Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein.
Ça donne pas de gueule, Et pour peu que tu dises que tes parents votre RN, là tu te fais défoncer.
Espèce de petit enculé de merde qui chiale sa race toute la journée. Connard.
Ah, c'est assez violent les colos macronistes. Et en même temps, j'encourage tous les enfants à aller en colo, car celui qui n'a jamais ressenti la fougueuse innocence des colonies de vacances, la douceur pleine de vie de ces adultes en puissance, l'inoubliable odeur de lavande de ces contrées de France, n'aura jamais vraiment connu la saveur de l'enfance.
Vincent Cerussi, que vous retrouvez du lundi au vendredi dans SL Midi sur RMC.
Vous restez avec nous dans un instant. La météo et le point sur l'info, évidemment. On va parler de l'attaque de l'Iran sur Israël. Plus de 200 projectiles tirés par l'Iran. Attaque déjouée, dit l'armée israélienne. L'espace aérien israélien a rouvert. On va faire le point dans le journal. Et on sera avec Thierry Covid, la spécialiste de l'Iran, à 7h40. À tout de suite. La météo avec vous, Marie. Journée de transition aujourd'hui.
C'est ça, avant un temps plus chargé dès demain et des températures qui baisseront drastiquement en dessous des normales de saison dès mardi. Côté ciel, ce matin, c'est nuageux dans les pays de la Loire, en Normandie, en Ile-de-France et jusque dans les Hauts-de-France. Quelques grisailles et du brouillard sont prévus en Aquitaine et dans le centre-val de Loire. Ailleurs, ce sera plutôt ensoleillé malgré un léger voile nuageux. Cet après-midi, peu d'évolution, même si les nuages gagneront du terrain sur la partie nord du pays, de la Bretagne jusque dans le Grand Est. Sur la moitié sud, en revanche, vous profiterez encore aujourd'hui une très belle journée sous le soleil. Côté température, elle baisse un peu partout, sauf dans le sud-ouest où il fait encore bien chaud, mais globalement, elle reste encore bien au-dessus des normales de saison. Ce matin, elles sont comprises entre 9 et 15 degrés. Cet après-midi, entre 14 et 29 degrés. Il fera 14 à Cherbourg, 16 à Lille, 20 à Paris et Biarritz, 26 à Strasbourg, Dijon et Perpignan, et jusqu'à 29 à Limoges et Toulouse.
Nous sommes le dimanche 14 avril. Bon réveil à tous.
Vous êtes sur RMC, il est 7h30.
RMC, la matinale week-end.
L'heure d'un nouveau journal avec vous, Clara Gabillet.
Bonjour à tous. L'armée israélienne dit avoir déjoué l'attaque de l'Iran. 200 drones et des missiles ont été tirés sur Israël cette nuit. Une pétition pour plafonner le prix du carburant alors que le litre d'essence avoisine aujourd'hui les 2 euros. Et puis du rugby avec le Stade Toulousain qui va tenter de décrocher son ticket pour les demi-finales de Champions Cup. Match à 16h contre les Anglais d'Exeter.
C'est la première attaque directe jamais menée par l'Iran contre Israël.
Téhéran a lancé cette nuit plus de 200 drones et des missiles contre l'État hébreu. L'Iran qui a donc mis sa menace à exécution en réponse à une frappe menée il y a 15 jours contre le consulat iranien à Damas en Syrie. Bonjour Johanna Chabas.
Bonjour.
L'armée israélienne dit avoir déjoué l'attaque de cette nuit.
Oui, 99% des tirs ont été interceptés selon l'armée. Pendant plus d'une heure cette nuit, le bruit des détonations a brisé le silence. Les drones et les missiles ont survolé le ciel israélien, mais ont été pour la plupart abattus par les forces militaires américaines et par le Dôme de Fer, ce système de défense aérien. Pour l'instant, pas de dégâts majeurs, pas de victimes selon Tel Aviv. Iran appelle maintenant Israël à ne pas réagir militairement. Pour Téhéran, l'affaire peut être considérée comme close. La suite se joue pourtant maintenant au niveau diplomatique. Le président Joe Biden a appelé le premier ministre israélien pour l'assurer de son soutien inébranlable et il demande aux dirigeants du G7 de se réunir. En tout cas, signe que pour Israël, l'attaque est passée. Le pays a rouvert son espace aérien il y a une heure.
Merci Johanna Chabas. De son côté, le Hezbollah libanais annonce avoir bombardé le Golan occupé pour la deuxième fois en quelques heures. Situation explosive dans la région. Cette attaque sans précédent risque d'ouvrir la voie à de lourdes représailles selon Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
C'est en quelque sorte la boîte de Pandore qui a été ouverte. Quelles pourraient être les ripostes? Par exemple, frapper des cibles militaires des installations nucléaires. Vous savez que Téhéran développe un programme nucléaire. Il est clair qu'une riposte israélienne, elle va être aussi discutée avec Washington. Il ne faut pas oublier non plus qu'il faut traverser les espaces aériens de la Jordanie et de l'Irak. Donc il faut aussi qu'il y ait des discussions avec ces partenaires-là.
En Australie, l'auteur de l'attaque qui a fait 6 morts hier à Sydney a été identifié. Rien ne laisse penser pour l'heure qu'il s'agisse d'un motif terroriste, selon les forces de l'ordre. Il souffrait de problèmes de santé mentale. Il a été abattu. Le préfet de police de Paris se félicite d'une baisse de la délinquance au Champ de Mars et près de la Tour Eiffel à Paris à l'approche des Jeux Olympiques. On a d'excellents résultats, assure Laurent Nunez, après le renforcement de la présence policière dans cette zone.
Et vous l'avez sans doute constaté à la station service, le prix du samplon 98 frôle les 2 euros.
L'essence n'avait pas été aussi chère depuis octobre 2023. Depuis janvier, le prix au litre a grimpé en moyenne de plus de 10 centimes. Dans ce contexte, 40 millions d'automobilistes a lancé une pétition il y a quelques jours. L'association demande à l'État un plafonnement du carburant à 1,50 euros le litre. Plus d'un million de signataires en 3 jours. Voici ce qu'en pensent les automobilistes. Une idée qui ne les laisse pas insensibles, Lucas Laubert.
À la pompe à essence, c'est le visage crispé que Véronique regarde le prix du samplon 95.
Là, je vois, il est à 1,94.
Une dizaine de centimes de plus par rapport à janvier, et elle le sent.
Quand on fait le plein, c'est pas grand-chose en soi, mais ça chiffre.
Exemple avec Nelson, qui se rappelle des prix au début de l'année.
Bon, il y avait une différence de 15 euros quand même, sur le plein. Sur les autoroutes, c'est vraiment flagrant. L'essence, je l'ai payé 2,20 euros, le 98 samplon.
Alors un plafonnement à 1,05 euros le litre, ça le fait sourire, une utopie pour lui.
Dans les faits, ça serait génial, mais ça se fera jamais.
Je sais pas si c'est à l'État de le faire, mais en tout cas, c'est toujours le contribuable qui paye les pots.
Et pour faire pression sur l'État, il y a donc cette pétition qui a été lancée. Ali, salarié, regarde de près son budget. Il est prêt à la signer.
Entre 1,50 et 1,84, vous voyez la différence quand vous faites un plein ou deux dans le mois, ça fait un petit revenu.
À la pompe d'à côté, Christian, pour lui, il faut que les automobilistes fassent des efforts.
Un plafonné à 1,50 ne fera pas accélérer le processus de transition énergétique. Je crois que plus personne ne veut se mouiller.
Sur un an, la hausse des prix des carburants a coûté en moyenne 200 euros en plus aux Français, selon l'association 40 millions d'automobilistes.
Le reportage de Lucas Laubert. On en sait un peu plus sur les changements que le gouvernement compte faire concernant le compte personnel de formation. Il s'apprête à publier un décret pour limiter le financement du permis moto avec ce CPF et pour acter la participation financière des salariés, Amélie Lafchin.
Oui, le premier décret introduit un reste à charge de 100 euros pour les salariés. Concrètement, si vous souhaitez utiliser votre compte CPF pour une quelconque formation, vous devrez sortir 100 euros de votre poche, un montant qui pourrait être revalorisé chaque année en fonction de l'inflation. Seuls les demandeurs d'emploi ne sont pas concernés et l'employeur peut choisir de prendre en charge cette somme. Avec cette mesure, le gouvernement espère économiser plus de 200 millions d'euros et ce, dès cette année. Le deuxième texte, lui, porte sur le permis moto, deuxième formation la plus demandée avec près de 40 000 dossiers validés en l'espace de 3 mois. Désormais, plus question de payer son permis de roue avec son compte CPF si on a déjà le permis voiture. Et si vous n'êtes pas titulaire du permis, eh bien il faudra choisir entre les deux.
Explication signée Ameline Lafchin pour RMC.
Allez, place au sport. Victoire hier 3-1 de Strasbourg contre Reims.
Strasbourg qui se rapproche du maintien en Ligue 1 avec cette victoire. Toulouse s'est imposée 2-1 face à Rennes. Rencontre entachée par un affrontement entre les supporters rennais et toulousains qui a fait 10 blessés. La suite de cette 29e journée, c'est Le Havre qui reçoit Nantes à 13h. Clermont-Montpellier, c'est à 15h. Et Lyon reçoit Brest à 20h45. En rugby, La Rochelle éliminée de la Champions Cup. Défaite des tenants du titre 40-13 face au Leinster. Bordeaux également éliminé après sa défaite d'un petit point 42-41 face au Harlequins. Et cet après-midi, c'est le Stade Toulousain qui joue son quart de finale face aux Anglais d'Exeter à 16h. La compétition qui est une grande quête pour les coéquipiers d'Antoine Dupont. La dernière fois que les Toulousains ont remporté ce trophée, c'était en 2021. Ils ont donc de la frustration à évacuer, Wilfried Templier.
Oui, notamment celle des deux dernières demi-finales perdues face aux Irlandais du Leinster. Mais pour autant, pas facile de faire avouer aux Toulousains que la Champions Cup est une priorité.
Ça, c'est encore une fois une question, malheureusement, de journaliste. Il n'y a pas à choisir, il y a juste à être au rendez-vous au bon moment.
En fait, le manager Hugo Mola ne veut pas donner l'impression de tout miser sur cette Champions Cup. Mais dans cette compétition, Toulouse bute depuis trop longtemps maintenant sur les dernières marches et a envie de revivre de grandes choses, comme l'avoue le pilier Cyril Baye.
C'est un objectif aussi. C'est surtout qu'on a eu la chance en 2021 d'y goûter. Et quand t'as gagné un titre comme ça, t'as envie d'y revenir. Donc voilà.
Après, on sait aussi les sacrifices que ça demande. Les matchs aussi qui se jouent sur des détails.
Cette génération a évidemment gagné tous les trophées. Alors Antoine Dupont, lui, en fait d'abord un trait d'humour.
Le bouclier est plus lourd quand même, c'est moins évident à soulever.
Mais le capitaine toulousain ne veut pas trancher.
Honnêtement, c'est une immense joie pour les deux. Et même si on n'a pas vu la Coupe d'Europe depuis plus longtemps, on a autant envie de soulever l'un que l'autre, évidemment.
Champions Cup ou même top 14 plus tard, les adversaires sont prévenus. S'il le peut, et comme souvent, le Stade toulousain ne se privera pas de tout rafler.
Et ce sera à vivre donc à 16h sur RMC. Et un peu plus tôt, à 13h30, le 15 de France féminin s'élancera face à l'Italie. Ce sera pour la troisième journée du tournoi des Six Nations. Merci beaucoup Clara, il est 7h37.
À suivre dans la matinale week-end.
Restez bien avec nous. Ce matin, on va parler des Jeux Olympiques, évidemment, sur RMC, parce qu'à quasiment 100 jours du début des Jeux, Emmanuel Macron sera demain matin l'invité d'Apolline de Malherbe pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'organisation, les transports, la sécurité, les chances de médailles de la France. Si vous voulez d'ailleurs poser vos questions au président, je rappelle l'adresse vosquestions@rmc.fr et le 3216, évidemment. D'ailleurs, ce matin, dites-nous si vous êtes impatient de vivre cet événement en France, d'accueillir les Jeux Olympiques, 32-16 et l'appli RMC. Les Jeux Olympiques et la flamme, on va en parler ?
Oui, ce sera d'ailleurs au menu de Racontez-nous avec Nicolas Poincaré ce matin à 7h50.
De la flamme olympique, elle sera allumée mardi à Olympie en Grèce.
D'abord, on va revenir sur cette attaque sans précédent. L'Iran a lancé hier plus de 200 drones et missiles contre Israël en réponse à une frappe contre son consulat à Damas. Première attaque directe jamais menée par la République islamique contre le territoire israélien. On est avec Thierry Coville, spécialiste de l'Iran. Pour en parler dans un instant, à tout de suite.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Soyez les bienvenus, c'est la matinale week-end sur RMC, il est 7h41.
RMC.
L'invité du jour.
Et l'invité du jour, c'est vous, Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran.
Pour parler donc de cette attaque de drones et de missiles contre Israël, plus de 200 drones et missiles lancés par l'Iran contre l'État hébreu. Attaque déjouée, dit l'armée israélienne. La grande majorité des missiles a été interceptée. Bonjour Thierry Coville, merci d'être avec nous pour essayer de comprendre tout cela ce matin sur RMC. D'abord, on est d'accord que c'est inédit que l'Iran attaque Israël aussi frontalement, aussi directement.
Oui, c'est la première fois depuis la révolution iranienne de 1979. Donc, c'est, je veux dire, historiquement, oui, c'est la première fois.
Comment on en est arrivé là ?
Je pense que c'est la réponse directe de l'attaque de l'armée israélienne contre le consulat iranien, parce que bon, d'après le droit international, hein, attaquer un consulat, c'est comme attaquer un pays. Mm-hmm. Donc on a eu quand même deux déclarations du guide Ali Khamenei qui a dit, d'après les coutumes internationales, enfin les lois internationales, attaquer un consulat, c'est attaquer un pays. Il faut savoir que l'Iran est obsédé par la défense de son territoire. Et puis il y avait quand même un mouvement de pensée en Iran qui s'imposait de plus en plus, qui disait il faut envoyer un message à Israël pour qu'ils arrêtent, parce que si on fait rien, ils vont devenir encore plus audacieux, puis ils vont nous attaquer de plus en plus et ils risquent d'attaquer notre territoire. Donc il y avait l'idée d'envoyer un message à Israël, de leur dire voilà, maintenant ça suffit.
L'Iran qui appelle ce matin Israël à ne pas réagir militairement à son attaque. L'affaire peut être considérée comme close, annonce la mission iranienne à l'ONU. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce qui peut se passer ?
Alors là, il faudrait, je pense que là, moi, je peux vous parler de la position iranienne. Effectivement, la balle est dans le camp israélien.
Ouais.
Je pense que, si vous voulez, ça ressemble un peu à toute proportion gardée. Vous savez, il y a eu des échanges de tirs entre l'Iran et le Pakistan, je crois qu'il y a plusieurs semaines. Bon, l'Iran ensuite et le Pakistan ont dit, maintenant, on a envoyé des missiles chacun de notre côté. Bon, maintenant, l'incident est clos. Donc, je pense que du côté iranien, quand même, le message me semble important, c'est que pour eux, c'est bon. Ils ont donné leur réponse.
Il s'agissait de quoi, là, très clairement ? De montrer les muscles, c'est ça ?
Écoutez, je veux dire, il faut quand même aussi revenir. Je pense que là, il faut faire très attention, notamment en France. Il y a quand même une attaque contre le consulat iranien. Mmh. Donc, s'il y avait un consulat, et je sais pas, imaginez-vous ce matin, il y aurait eu une attaque contre un consulat français dans une partie du monde.
Ouais.
Avec une armée qui le revendique quasiment. Enfin, qui le dit pas directement, mais enfin, qui le revendique en disant, oui, il y avait des militaires dans ce consulat, donc attaquer. Donc, du côté iranien, il y avait l'idée, si vous voulez, que, du côté de leur crédibilité vis-à-vis de leur population, on est obligé de faire quelque chose.
Mmh.
Mais d'un autre côté, comme je l'avais expliqué sur d'autres antennes, du côté iranien, ils sont très calculateurs. Ils veulent pas d'un vrai conflit. Et je pense que le message de ce matin est clair. Ils veulent pas d'un conflit total avec Israël et sans doute avec les États-Unis. Donc, l'idée, c'était entre les deux. Donc je pense que là, il faut, c'est comme ça qu'il faut analyser la stratégie iranienne. Ah, effectivement, là, je pense que c'est la réponse à votre question, c'est qu'est-ce que va décider le gouvernement israélien? Est-ce qu'ils vont faire une nouvelle réponse? Alors là, effectivement, on aura un engrenage, ou bien est-ce qu'ils vont s'arrêter là?
Oui, parce que l'Iran prévient quand même que si le régime israélien commet une nouvelle erreur, la réponse, je cite, sera considérablement plus sévère.
Oui, ben, je pense que vous savez, alors là, je pense qu'il faudrait que vous adressiez un spécialiste des questions militaires, mais je note, par exemple, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas eu d'attaque de la part du Hezbollah. On sait que le Hezbollah, par exemple, au Liban, a un nombre considérable de missiles. Donc, s'il y avait une véritable attaque de l'Iran et de ses alliés, je pense que tous les groupes de l'Iran auraient attaqué en même temps. Là, je pense que, d'après ce que j'ai également compris, quasiment tous les missiles et les drones iraniens ont été abattus, même avant d'arriver sur le territoire israélien. Donc, je pense que les Iraniens, quelque part, le savaient, ça, si vous voulez. Donc, je pense que là, on est face à une réponse, je veux dire, entre guillemets, calibrée. Mm-hmm. L'idée de l'Iran, c'est de dire à Israël, écoutez, ce que vous avez fait, c'est impardonnable, ne recommencez pas. Mais je pense que l'Iran, très clairement, dans ce message...
C'est symbolique, en fait, c'est ce que vous nous dites.
Bah, symbolique, quand on envoie des centaines de missiles et de drones, je pense qu'on est en dehors de symbolique, parce que je crois que d'après ce que j'ai compris, l'aviation quand même américaine a abattu une partie des drones. Donc là, on est face à quelque chose, là, c'est un peu la guerre qui a commencé. Mais du côté iranien, c'est une réponse, entre guillemets, calibrée par rapport à l'attaque du consulat. Excusez-moi, mais la France n'a pas condamné, d'après ce que j'ai compris, l'attaque israélienne du consulat iranien en Syrie. Alors, la question quand même que je me pose ce matin, c'est le droit international, c'est quand ça arrange les intérêts des Occidentaux, ou c'est le droit international, c'est important. Donc là, je pense que du côté iranien, il y a l'idée que le pays a été attaqué à travers le consulat. On répond. Alors ensuite, l'idée, c'est que on a répondu, on a montré à Israël qu'on était capable de répondre. D'un autre côté, je pense que les dirigeants iraniens ne veulent pas d'un conflit.
Ils ne veulent pas d'un embrasement, ne veulent pas que ça aille plus loin.
Tout à fait. Enfin, je veux dire, c'est l'impression que j'ai. Hein.
Sauf qu'il va y avoir une réaction de la part de l'Occident. Il y a notamment donc cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Aujourd'hui, il y aura une réaction.
Mais écoutez, je viens de vous dire, il faut quand même noter que j'ai envie de vous dire, voilà, Israël, ce serait bon quand même que du côté de l'ONU, je crois que l'ONU l'a condamné cette attaque. Il y avait quand même une attaque contre le territoire iranien avec l'attaque du consulat iranien. Donc là, ce que je perçois du côté iranien, c'est qu'ils ont envoyé une réponse en disant, je crois que le discours, si vous voulez, il fallait bien écouter le discours de Ali Khamenei, il a dit, d'après la loi internationale, attaquer un consulat, c'est attaquer un pays. L'Iran est obsédé par la défense de son territoire, notamment depuis la guerre Iran-Irak. Donc il y avait l'idée, je veux dire, mettons-nous quelque part, vous voyez, je sais que c'est l'Iran avec tous ses défauts, etc., mais l'idée, c'est quand même de se mettre à la place de l'Iran. Vous êtes attaqué. Votre consulat est attaqué par des missiles. C'est revendiqué quasiment par l'armée israélienne. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'était quand même étonnant, excusez-moi, mais moi, j'essaye d'être le plus neutre possible, mais on condamne pas l'attaque...
La France aurait dû condamner?
Bah écoutez, quand un consulat est attaqué par des missiles, qu'est-ce qu'on fait normalement? Enfin, je sais pas. Je pense qu'on est quand même dans une période assez dangereuse, à force d'avoir une instrumentalisation du droit international. C'est quand ça arrange nos intérêts, faut pas s'étonner ensuite que les pays du Sud, genre le Brésil, quand on va les voir, on dit, écoutez, la guerre en Ukraine, c'est votre affaire. Je veux dire, pourquoi excusez-moi, mais là, je parle plus en tant que citoyen, mais quand la Russie attaque l'Ukraine, ils respectent pas le droit international, ils envahissent un autre territoire. Quand Israël envoie un missile sur un consulat iranien en Syrie, c'est bon, c'est ok, ils vous laissent défendre. Et on demande en plus, si vous voulez, après cette attaque, on dit à l'Iran de montrer de la retenue. Bon, là, il y a quelque chose qui...
Voilà, alors là, quelle doit être l'attitude de la France? Quelle doit être l'attitude de la communauté internationale, selon vous?
Écoutez, vous savez, il y a des éléments que l'expert peut, sur lesquels il peut pencher, il y a des éléments qui concernent le citoyen. Moi, je pense qu'il y a quand même un intérêt à ce que le conflit ne dégénère pas. Je pense que c'est l'intérêt de tout le monde. Ça peut être que destructeur pour la région et je pense aussi pour le système international. Donc, je pense que là, il y aurait quand même un intérêt à faire passer des messages à l'Iran que, effectivement, alors il faut voir ce qui se passe du côté des Nations Unies. Il y a un tel lien entre Israël et les États-Unis qu'on voit que les États-Unis sont quasiment paralysés. Je veux dire, ils n'osent pas condamner, voter une résolution de l'ONU contre Israël. Mais il y a quand même l'idée de faire le maximum pour faire comprendre aux deux parties que qui a intérêt à un conflit plus ouvert. Et je pense que les États-Unis, évidemment, vont jouer
un rôle clé. Non seulement ils ne condamnent pas, mais en plus, Joe Biden réitère l'engagement inébranlable des États-Unis en faveur de la sécurité de l'allié israélien. Les mots sont forts hein, depuis hier.
Oui, non, mais si vous voulez, il faut aussi être réaliste. Quand il y a une attaque de cette importance de l'ennemi juré d'Israël avec des missiles et des drones, quand on connaît les liens stratégiques entre Israël et États-Unis, et en plus Joe Biden est en campagne électorale, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Je pense qu'il est obligé de dire ça. Bon, il y a ce qui se passe, il y a ce qu'on dit, il y a ce qui se passe en coulisses. Moi, j'espère que voilà, c'est un espoir que la communauté internationale, pour une fois, d'ailleurs, on applique des principes, le droit international, et c'est important. Ça concerne Israël, ça concerne l'Iran, ça concerne la Russie, mais je veux dire, c'est pas à la carte. Hein, ça concerne tout le monde. Il y a une attaque d'un consulat iranien. L'Iran a répondu, c'est peut-être pas bien, mais enfin, ils considéraient qu'ils avaient été attaqués. Je crois que c'est l'intérêt de personne que le conflit dégénère.
Merci beaucoup Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran, d'avoir fait le point sur RMC ce matin avec nous. Je rappelle donc que l'Iran a lancé hier soir une attaque de drones, de missiles contre Israël, opération inédite, déjouée, dit l'armée israélienne ce matin. On en parle évidemment dans tous nos journaux. On fera le point d'ailleurs dans le journal de 8h de Victor Pourchet. Vous ne raterez rien évidemment sur RMC.
Et vous restez avec nous dans un instant, on va parler des Jeux Olympiques avec Nicolas Poincaré. À tout de suite sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Soyez les bienvenus sur RMC. 7h52. Dans le bonus RMC dans 2 minutes, on va partir à Disneyland Paris. Eh oui, Disneyland qui a annoncé de grands changements pour 2025.
Mais d'abord,
racontez-nous.
C'est l'heure de retrouver Nicolas Poincaré.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Anaïs, bonjour Marie.
Tous les matins, vous nous racontez à votre façon une histoire dans l'actualité. Ce matin, vous nous racontez que la flamme olympique sera allumée mardi en Grèce.
Oui, allumée grâce aux rayons du soleil qui mettront le feu en passant à travers une loupe. Une cérémonie qui aura lieu sur le site du stade d'Olympie en Grèce, comme tous les 4 ans. La flamme traversera ensuite la Grèce, puis embarquera à bord du Belém, le fameux trois-mâts, pour rejoindre Marseille où elle arrivera le 8 mai. Ce sera l'occasion d'une grande fête dans le Vieux-Port et d'une parade avec des dizaines de bateaux. Puis, ce sera le début d'un Tour de France XXL en 68 étapes, c'est-à-dire 3 fois plus long que le Tour de France cycliste. La flamme ira presque partout et surtout dans les lieux marquants de l'histoire de France. On la verra à la grotte de Lascaux, au site d'Alésia, à la cité médiévale de Carcassonne. Elle passera par le Mont-Saint-Michel, le château de Versailles, le mémorial de Verdun, les plages du débarquement, la tombe du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises, mais encore le palais des festivals à Cannes ou bien les vignobles de Saint-Émilion. Bref, c'est une énorme campagne de pub pour la France, pour ses paysages et pour ses lieux d'histoire. Les dom-toms ne seront pas oubliés. La flamme ira en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie et à La Réunion. Pour traverser l'Atlantique, elle embarquera à bord d'un multicoque de course. Et ensuite, tout de même, elle prendra l'avion pour revenir en métropole.
Mais alors, qui seront les porteurs de la flamme ?
Alors, ils seront 10 000. Ils parcourront chacun 200 mètres environ en courant. Et ils se transmettront la torche avec un petit baiser, un torch kiss, en référence au French kiss. Oh. Il y aura autant de femmes que d'hommes. La plupart ont été tirés au sort parmi 100 000 candidats. D'autres ont été choisis par les sponsors ou bien encore par les villes étapes qui payent très cher pour accueillir la flamme, un peu comme pendant le Tour de France cycliste. Des célébrités ont également été choisies pour porter la flamme. Jamel Debbouze, Thomas Pesquet ou bien Jean-Pierre Papin. La doyenne sera une ancienne résistante, Mélanie Bergévol, qui est âgée de 102 ans et qui est la grand-mère d'une gymnaste qui avait participé aux Jeux d'Atlanta. La nuit, la flamme dormira dans des hôtels gardés par des gendarmes ou des policiers. Normalement, elle ne s'éteindra jamais, mais au cas où, une flamme de secours est prévue. Elle est transportée dans une petite lanterne. Après 12 000 km, la flamme arrivera enfin à Paris pour la cérémonie d'ouverture et un dernier porteur ou une dernière porteuse enflammera la vaste qui sera dans le jardin des Tuileries. On ne sait pas qui sera ce dernier porteur. Des rumeurs ont évoqué Zidane ou bien Marie-Josée Pérec ou bien 2 athlètes, un Israélien et un Palestinien qui pourraient se tenir par la main. Généralement, le secret absolu sur le dernier porteur est gardé jusqu'au tout dernier moment.
Merci Nicolas Poincaré. J'en profite pour rappeler qu'Emmanuel Macron est l'invité exceptionnel de RMC et BFM TV demain de 8h20 à 9h. À presque 100 jours du début des JO, le président répondra en direct aux questions d'Apolline de Malherbe, des auditeurs de RMC et de nos consultants JO. Donc David Douillet, Marion Bartoli et Rémi Boulet. Si vous voulez poser vos questions au président sur la sécurité des JO, la cérémonie d'ouverture, les transports ou ses ambitions pour nos athlètes, une seule adresse, vos questions à rmc.fr et le 3216.
Et puis on vous offre des places aussi ce matin sur RMC, des places pour les Jeux Olympiques, 100 places à remporter dans les Jeux d'RMC. J'en ai deux. On en a deux, ouh, Marie, pour soit la cérémonie d'ouverture, le judo, tennis de table, la natation. J'en passe. On aura un gagnant tout à l'heure à 9h08. Si vous voulez essayer de gagner ces deux places, vous envoyez Paris 2024 au 732-16. Paris 2024 au 732-16. Bonne chance à vous.
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
Avec vous donc, Marie Lafolas, vous nous emmenez à Disneyland Paris ce matin.
Et la musique, c'est cadeau, c'est voilà, toute la journée dans la tête. Oui, parce qu'à l'occasion de son 32e anniversaire, le parc fait peau neuve et une conférence de presse s'est tenue vendredi pour dévoiler tous les changements à venir, à commencer par le changement de nom de Walt Disney Studios qui deviendra en 2025 le Disney World Adventure. Le deuxième parc change de direction, on quittera donc en partie les studios et les coulisses du cinéma pour finalement être plongé dans les plus grands succès de Disney, Marvel et de Pixar. Donc après la création d'un land basé sur les Avengers, les visiteurs pourront découvrir une attraction réponse qui nous plongera dans la célèbre scène des lanternes.
Ah, génial!
Ça fera plaisir à vos enfants.
Fleurs au pétale d'or.
Voilà, je connais tout. Mais je vois que vous êtes une grande connaisseuse.
Bah, réponse, évidemment.
Il y aura aussi un tout nouveau monde qui fera son apparition, le royaume de la Reine des Neiges.
Ah ouais, alors là, on a un peu marre. Je suis plus réponse que Reine des Neiges.
Mais votre fille, elle est à fond dans la Reine des Neiges, c'est pas
ouais, oui,
ça.
Évidemment, ouais, comme tous les enfants.
Bah alors, vous pourrez l'emmener parce que ce royaume qui est déjà en construction depuis quelques mois déjà va ouvrir ses portes à l'été 2025. Et pour cet univers, Disneyland a mis le paquet avec un lac de 70 000 mètres cubes qui entourera le château d'Arendelle. Il y aura aussi de belles rives aménagées sur lesquelles on pourra très certainement manger et acheter tout plein de babioles dans différentes boutiques. Forcément, j'imagine. On va passer à la caisse.
Alors, le prix des billets est déjà hyper cher,
évidemment, mais on pourra aussi admirer de beaux spectacles aquatiques directement sur le lac, comprenant de la musique, des lumières et évidemment des effets
pour
spéciaux.
Pour les enfants, c'est magique.
C'est magique. Franchement, même pour moi, je dois vous dire que j'ai vraiment hâte d'aller voir ce long. Je suis très fan de Disney. Donc, parmi les autres annonces du parc, deux nouveaux spectacles sont en préparation pour fin 2024, début 2025. De nouvelles boutiques plus axées mode et bijoux s'installeront à Disney Village. Et certains hôtels, dont le Davy Crockett Ranch, seront rénovés progressivement. Tout ça pour la modique somme de 2 milliards d'euros. C'est aussi ça, la machine Disney, bah oui, évidemment.
Alors, j'apprends donc que vous êtes très Disney. C'est qui votre personnage Disney préféré?
Alors, depuis peu, c'est vraiment le film Coco. C'est pas un personnage, c'est vraiment le film Coco qui parle de la mort, du royaume des morts et tout ça. On valide?
On valide totalement. 100%. Vous restez avec nous dans un instant. La météo et le journal, à tout de suite.
RMC,
la matinale week-end.